Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris la version longue parce que je voulais commenter sur l'attitude du fils aîné. Et la version courte ne donne pas la possibilité de comprendre cette attitude du fils aîné. Nous avons affaire à trois catégories de paraboles. La première concerne la brebis. Une brebis n'a pas la volonté, une brebis suit la nourriture, elle peut se perdre. C'est le berger qui va vers la brebis pour la retrouver. La deuxième parabole concerne la pièce que cette femme a perdue. La pièce d'elle-même n'a pas de pied pour se perdre. Donc il faut que quelqu'un la perde. Donc c'est la femme qui a perdu la pièce et c'est la femme qui retrouve la pièce. La troisième parabole concerne deux fils. L'aîné qui était au service de son père, mais qui a une mauvaise attitude, et le cadet qui se sépare de son père pour aller mener sa vie loin de la maison de son père. Et alors, il va tout dépenser et se retrouve dans le désastre. Et c'est ça. Et là, ce n'est pas le père qui va à la recherche du fils, c'est le fils lui-même qui prend conscience. C'est lui qui prend conscience qu'il n'est pas dans la bonne position et qui revient vers le Père. Et c'est ça la différence entre les trois paraboles. La première, c'est la brebis qui marche dans la mauvaise direction et qui s'égare. La deuxième, c'est le propriétaire qui la perd. Et la troisième parabole, c'est le fils qui revient par lui-même, parce qu'il a pris conscience qu'il était séparé de son Père, séparé de la source, séparé de la vie. Il était comme mort. Et ce que je voulais commenter pour vous ce matin, c'est vraiment par rapport à l'attitude du fils aîné. Je vous l'ai dit depuis un certain temps, nous sommes dans le temps de la fin. En ce temps, ça prend vraiment que la parole de Dieu doit venir provoquer en nous vraiment une révolte, un changement radical. Nous ne pouvons plus nous contenter de venir à la messe. Nous ne pouvons plus nous permettre cela. Dans ce temps qui sont les nôtres, la parole que nous recevons doit nous façonner. Parce que dans le temps qui vient, il y aura beaucoup de persécutions. La parole de Dieu dit, plusieurs chrétiens vont abandonner leur foi. Et l'amour de plusieurs va se refroidir. Les gens vont s'attacher à des choses qui sont superficielles. Ils vont s'attacher aux apparences et ils vont renier la puissance de Dieu. Un petit reste seulement va rester dans la puissance. C'est pour cela que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Nous devons regarder comment il s'est comporté. Nous devons regarder le cœur de Dieu, comment Dieu se comporte devant n'importe quelle situation. Parce que si nous ne faisons pas attention, si la parole de Dieu n'affecte pas notre vie et si ça ne change pas notre caractère, rappelez-vous ce que la parole de Dieu dit. Dans le dernier temps, Jésus va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et les gens vont lui dire, mais on était là quand tu prêchais. Et ils vont dire, mais nous avions partagé le repas avec toi, Seigneur Jésus. Et ils vont dire, éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Nous n'avons aucune intimité ensemble. C'est ça que je vous ai expliqué la dernière fois. Et donc, nous avons besoin de développer des attitudes qui développent une intimité avec Dieu. En d'autres termes, des attitudes qui développent la nature de Dieu en nous. Et c'est à travers la nature de Dieu que nous pouvons communiquer avec Dieu et que Dieu peut venir habiter en nous. Car la nature de Dieu se développe en nous. C'est très important. Et cette nature, la parole de Dieu est donnée pour affecter, pour changer notre caractère. C'est la première chose qu'on doit voir dans la vie de quelqu'un qui devient chrétien, son caractère. La Bible dit, autrefois nous étions dictés par la façon de faire de nos pères, mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, notre caractère a changé, nos attitudes ont changé et notre vie a changé. La parole de Dieu doit toucher nos caractères. Si autrefois nous étions comme ceci, la parole de Dieu doit toucher, bousculer notre caractère. Voilà pourquoi je vous parle de l'attitude du fils aîné. Remarquez bien, le fils cadet a demandé sa liberté, il est parti. Le fils aîné est resté au service de son père, mais remarquez son caractère. Son caractère n'est pas bon. Le père, c'est lui qui a donné l'héritage au fils cadet. Quand le fils cadet revient, le père court vers lui, il l'embrasse. Pourtant, il savait que ce fils a dilapidé tous les biens qu'il lui avait donnés. S'il y a quelqu'un qui pouvait se fâcher, c'est le père. C'était son héritage à lui. Ce n'est pas le fils. C'est le père qui devait se fâcher. Pourtant, nous voyons, le père montre une attitude, vraiment une attitude d'accueil, d'amour, de compassion envers son fils. Il ne l'abandonne pas. À partir du moment où le fils prend la décision de revenir, le père ne l'abandonne pas. Il l'accueille. Mais regardez l'attitude du fils aîné qui est toujours là avec le père. Le fils aîné qui est toujours en train de travailler, de servir. Regardez son attitude. Aucun amour envers son frère. D'ailleurs, le serviteur lui dit, voici, la fête est là parce que ton frère est revenu. Mais le fils aîné ne dit pas mon frère. Il dit à son père, ton fils que voilà. Il ne l'appelle pas mon frère. Lui, le fils aîné, lui qui était toujours docile, lui qui servait son père, regardez son attitude. Il n'est même pas capable d'accueillir le fils que le père vient d'accueillir. Il se met en colère à cause de l'héritage. Cette parabole vient nous chercher, chers frères et sœurs, parce que nous sommes comme le fils aîné, nous sommes toujours dans l'église. Nous sommes au service de Dieu. Nous venons prier Dieu. Nous ne sommes pas comme ceux qui sont partis. Nous sommes encore là. Nous nous appelons les pratiquants. C'est pour cela que c'est très important. Il ne suffit pas d'être avec Dieu. Il ne suffit pas d'être près de Dieu. Il ne suffit pas d'être au service de Dieu, au service du Père. Encore faut-il que nous ayons une bonne attitude, un bon caractère. Quand le Père accorde sa miséricorde à quelqu'un, nous devons entrer dans le regard du Père et rendre grâce à Dieu. Le caractère, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas demeurer éternellement chrétiens et avoir un caractère de cochon. C'est impossible. La parole de Dieu doit d'abord toucher notre caractère. Je vous le dirai encore, je reviendrai encore là-dessus. Parce que c'est très important. Ou bien nous sommes des chrétiens avec le caractère du Christ, ou bien nous ne le sommes pas. Dans la Bible, on ne parle pas de pratiquants et de non-pratiquants. Dans la Bible, on parle des chrétiens. C'est-à-dire des gens qui ont accueilli Christ et qui sont morts dans leur caractère et qui sont ressuscités dans le caractère du Christ. Accueillir chaque personne, ça demande d'abord que nous puissions nous laisser toucher par Dieu lui-même, par son amour. Remarquez dans la première lecture l'attitude de Moïse. Dieu prend la décision d'éliminer son peuple. Pourquoi? Ils ont fabriqué un veau d'or. C'est une insulte par rapport à Dieu. Représenter Dieu par un animal, un homme, on comprend encore, parce qu'il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance, mais par un animal, réduire Dieu, le Tout-Puissant, par un animal et dire « voici notre Dieu ». Il avait raison, il pouvait éliminer ce peuple. Pourtant, regardez l'attitude de Moïse. Moïse ne dit pas à Dieu, oui, moi aussi je suis fâché, élimine le peuple. Non, Moïse intercède. Père, tu vas éliminer ce peuple après l'avoir sorti, délivré de la main de Pharaon. Tu viens le tuer dans le désert. Quel message tu donnerais aux nations païennes? Quel message, papa, père, Abba, tu vas donner aux nations païennes après avoir libéré ton peuple de la main de l'Égypte, de Pharaon, tu viens le tuer dans le désert. Moïse intercède pour le peuple. Et la finale, Dieu a changé de position, il a changé d'avis à cause de l'attitude, du caractère de Moïse. Il avait raison, il pouvait laisser les gens dire qu'ils meurent. Parce qu'ils ont une tête, ils sont têtus. Il aurait pu laisser, mais regardez son attitude. Il ne se plaît pas à voir ce peuple mourir, même s'ils sont dans le péché, même s'ils sont dans la faute. Il demande encore à Dieu de leur accorder une faveur, une grâce. Déjà, Abraham a fait la même chose. Les anges sont venus dire à Abraham, voilà, nous avons une mission d'aller détruire Sodome. Abraham savait ce qui s'est passé à Sodome parce que son neveu Lot était là. Il avait l'information. Il savait qu'il y avait de la cochonnerie à Sodome. Il aurait pu dire à ces gens-là, oui, détruisez, ils ont exagéré. C'est un peuple païen, il faut les détruire, qu'ils soient éliminés. Ce n'est pas ça qu'Abraham a fait. Il savait qu'ils étaient des pécheurs. Il savait que la ville tout entière était dans le péché. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Père, tu vas éliminer toute une ville, même s'il y a quelques justes dedans. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier Dieu pour qu'il change de position. L'attitude, c'est par là qu'on voit qui est fils et fille de Dieu. Ce n'est pas juste par le fait de venir à l'église. Ce n'est pas mal, je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église, mais je dis ceci, que nous ne devons pas nous contenter de venir à l'église. Ce n'est pas ça qui va nous sauver, venir à l'église. C'est quand la parole vient toucher notre vie et quand la parole vient façonner notre cœur pour qu'il ressemble davantage au cœur de Jésus. C'est ça que Dieu attend de nous. Que notre caractère soit affecté par la puissance de sa parole. Voilà pourquoi, vous voyez, donc Moïse nous révèle l'attitude de quelqu'un qui est façonné par Dieu lui-même. Il n'est pas jaloux, il n'est pas égoïste, il ne veut pas son bien à lui et le mal des autres. Même quand ils sont dans le mal, Moïse continue à les accepter. C'est le peuple, il est le guide, il continue à les accepter même quand ils ont fait le mal. Moïse prie pour eux. Voyez-vous, le plus grand problème que nous avons dans notre vie, c'est la fidélité dans les relations. Être intègre. Nous ne sommes pas souvent fidèles, même dans nos relations amicales. Tout va bien quand tout va bien. Dès que nous apprenons qu'une amie a fait une gaffe et que tout le monde en parle, les journaux en parlent, oh non, nous ne voulons plus nous approcher de lui, c'est fini, nous le raillons. Personne, pas seulement nous raillons cet ami de notre liste, mais nous, pendant ce temps, nous nous plaisons à lui parler de lui ou d'elle. Pendant ce temps, nous devons raconter à tout le monde. Ah, tu as appris. Est-ce que tu as appris? Tu as appris. La bonne nouvelle, c'est quoi? Ah, voici ce qui est arrivé à l'autre. Mais le jour où ça nous arrive à nous, nous ne voulons pas que les gens en parlent. Voyez-vous? L'attitude d'un enfant de Dieu doit être une attitude de compassion. Dieu lui-même manifeste la compassion à travers l'image du Père. C'est un Dieu qui est compatissant. Il ne se plaît pas de voir ses enfants mourir. Au contraire, il leur donne toujours une chance quand ils reviennent. Il donne toujours une nouvelle chance. Ça, c'est le nom de notre Dieu, la miséricorde. Donner encore et encore une nouvelle chance à chacun, même au plus grand criminel. C'est pour cela que la deuxième lecture nous parle de l'histoire de Saint Paul. Paul n'était pas un saint au départ, c'était un criminel, c'était un persécuteur, c'était quelqu'un qui assassinait les chrétiens. Sur le plan humain, on aurait pu dire à Dieu, il faut l'éliminer. Mais regardez, Dieu, par sa miséricorde, il a été patient envers Paul. Aujourd'hui, nous l'appelons Saint Paul. Mais si Dieu n'était pas patient envers lui, Paul ne serait pas le Saint Paul que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi c'est mis par écrit? C'est pour que nous puissions changer, chers frères et sœurs. Il y a trop de commérages, il y a trop de choses, des rapports, rapporter les choses des gens parce qu'ils ont mal fait. Qui n'a jamais commis une faute et qui peut se dire qu'il ne commettra pas une faute? Tout le monde, y compris moi, je peux commettre une faute. Vous ne pouvez pas m'abandonner quand j'ai commis la faute et dire, ce n'est plus, comme disait, ce n'est plus notre curé parce que j'ai commis la faute. Nous sommes comme ça dans la vie. Nous sommes comme ça dans la vie. Mais pourtant, c'est en ce moment-là qu'on a besoin, que j'ai besoin d'abord de ma propre communauté pour me soutenir. Pas dans le mal, mais soutenir dans la prière. Dire, voilà, tu as encore une autre chance. Dieu te donne encore une autre chance, comme il a donné à Paul, comme il a donné à Pierre, comme il a donné à chacun, à chaque personne. Beaucoup de gens témoignent aujourd'hui comment Dieu est venu les visiter. Ils étaient dans le péché, Dieu leur a donné une nouvelle chance. Notre regard doit changer pour que nous regardions chaque personne. Je dis bien, même le plus grand criminel, le regarder avec les yeux de la compassion en demandant à Dieu qu'il lui donne une nouvelle chance d'être sauvé. Quand nous serons capables de dire cela, Quand nous serons capables de prier pour quelqu'un, même un criminel, et dire à Dieu, donne-lui encore une nouvelle chance, capable d'être sauvé, alors nous pourrons dire vraiment que la nature de Dieu commence à habiter en nous. Je termine avec une question. Une question que je vous lance. Je ne veux pas que vous puissiez répondre à moi, répondez à votre conscience. Je termine avec cette question que je vous lance. Je vous pose cette question. Est-ce que maintenant même, là où vous êtes assis, pouvez-vous dire dans la vérité de votre cœur que votre cœur est sauvé? C'est-à-dire le sentiment que vous avez dans votre cœur. Tout ce que vous gardez dans votre cœur, en ce moment, pouvez-vous dire que votre cœur a été connecté au salut que Jésus est venu apporter? Est-ce que votre cœur est sauvé? En ce moment même, je vous pose la question, pouvez-vous dire, là où vous êtes assis, que votre bouche est sauvée? Que votre bouche a reçu le message du salut de Jésus-Christ? Quand vous considérez tout ce que vous dites dans votre bouche, pouvez-vous dire que votre bouche est déjà sauvée, qu'il a reçu le salut? J'irai même plus loin. Répondez à votre conscience, là où vous êtes assis. Pouvez-vous dire que vos pensées sont sauvées? Vous allez réaliser vous-même et au quotidien que nous sommes en marche tous ensemble. Tous ensemble, nous sommes en marche. Et quand nous comprenons cela, que nous sommes en marche, que le salut n'est pas encore total en nous, alors notre regard doit changer sur les gens que nous jugeons à partir des actes extérieurs, à partir de ce qui est extérieur. Ma prière aujourd'hui, vraiment, que le Seigneur nous entraîne dans les profondeurs, que nous puissions sortir du superficiel, que nous puissions sortir des apparences, que nous puissions entrer dans la profondeur dans notre relation avec Dieu et que nous puissions nous poser ces questions fondamentales. Tous les jours, quand je me lève, je me regarde devant le miroir. François, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu es sauvé? Quand, avant d'aller me coucher, avant de dormir, si le Seigneur venait me prendre dans mon lit, François, est-ce que tu peux dire aujourd'hui quand tu vas te coucher que tu es sauvé? Tes pensées sont sauvées, ta bouche est sauvée, ton cœur est dans le salut. Peux-tu le dire avant de dormir? Nous devons en arriver là, entrer dans cette profondeur où nous n'avons pas besoin des jugements des autres, mais où nous avons besoin de nous regarder nous-mêmes et de répondre dans la vérité de notre être. Que le Seigneur nous aide à faire cette démarche de profondeur jour après jour. Amen.